L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, l'Afrique dans tous ses états, c'est tous les mardis à 13h15, 13h15 à 13h50, et c'est toujours avec Marie-Claude.
Bonjour
Marie-Claude. On change pas une équipe qui gagne, n'est-ce
Absolument
pas,
pas. Et notre invité en revanche, eh bien, aujourd'hui, c'est Huguette Ayengone Abesolo. Alors, on l'a déjà reçue la semaine dernière.
Oui, mais elle ne nous avait pas tout raconté.
Ah non, loin de là. On a vu qu'elle est arrivée en France il y a 15 ans,
oui.
Qu'elle était secrétaire de santé. Mais cette secrétaire de santé l'a amenée peu à peu au gré de, comment dire, de petits incidents comme ça, qui, hop, la faisaient avancer d'une marche. Et puis ensuite, jusqu'à devenir chef de projet en économie sociale et solidaire. Un diplôme qu'elle vient d'avoir et qu'elle va mettre à profit. Et Marie-Claude, vous aviez bien noté combien la richesse de la culture africaine, en l'occurrence ici celle du Gabon, mais on peut très bien l'étendre à l'Afrique de l'Ouest, nous apporte énormément au niveau de la relation avec l'individu.
Tout à fait. Et c'est vrai que Huguette, pour moi, elle symbolise un petit peu tout ce mix-là entre... Il y a sa personnalité aussi, disons-le, parce que c'est quand même... Nous sommes porteurs d'une culture depuis très longtemps, mais nous sommes ici maintenant avec notre nature à nous. Sa personnalité qui dit que quand elle a fait le tour d'une question, alors là, Huguette, en toute confidence, je me retrouve bien. Donc ça me plaît beaucoup.
On passe à autre chose.
Voilà,
elle
a besoin de passer à autre chose. Et qu'en même temps, son expérience, justement, son vécu avec ce qu'elle voyait, ce qu'elle constatait, lui et sa culturelle d'origine aussi, ont fait qu'à un moment, elle a pris les choses à bras le corps et qu'au fur et à mesure, elle avance avec son cheminement à elle, et culturel, et personnel, et je dirais ici montpelliérain, parce que je ne suis pas à Chonville quand même, voilà, moi. Donc voilà, et que nous en sommes là, et qu'elle est loin d'avoir assouvi notre soif de savoir un petit peu ce qu'elle nous présente, ce qu'elle prépare un petit peu par rapport à son prochain, à ses prochains, et particulièrement à ses prochains un peu âgés. Et comme on dit, comme on disait en Afrique, mais ça, je vais me répéter, mais excusez-moi du peu, mais quand on dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est pas rien, et c'est un sens énorme, et c'est pas que du papier. Voilà.
Alors c'est vrai que qui dit chef de projet en économie sociale et solidaire dit projet.
Oui.
Donc, j'ai des projets dans la petite tête d'Huguette Ayengone Abesolo.
Oui.
Des grands projets ?
Des grands projets.
Ouais. Là, c'est top. Top niveau.
Top niveau. Toujours dans l'aide à la personne. Toujours les personnes âgées. Parce que c'est un public qui est... Alors déjà, on y va tous. Lentement, mais sûrement vers le vieillissement, vers la vieillesse. Donc, c'est quelque chose qui est inéluctable. On vit de plus en plus longtemps et de plus en plus âgé. Et l'émergence des maladies chroniques fait que il est bien d'avoir un accompagnement adapté. De la prévention pour ne pas être un poids pour la famille, parce que la personne âgée le vivra très mal, elle perd en autonomie, elle perd ses moyens, et la famille qui n'est pas capable de prendre en charge sa personne âgée le vit très mal aussi. Et souvent, ici, il a été constaté, parce qu'ici encore, il y a des statistiques qui se font, il y a des études qui se font. Les accompagnants meurent avant les personnes accompagnées. Donc, maintenant, dans la prise en charge des personnes âgées, l'accompagnant est pris presque au même titre que la personne qu'on accompagne. Parce qu'au domicile, pour qu'une personne reste au domicile dans de bonnes conditions ou reste au domicile, il faut que l'accompagnant aille bien, qu'il ne soit pas épuisé.
Oui, qu'il puisse justement accompagner, c'est pas rien.
Qu'il puisse continuer à accompagner et surtout Parce que dans ces cas-là, souvent, quand on est épuisé, insidieusement, la maltraitance va rentrer. Même si on ne le voulait pas, ce n'est pas la première idée des personnes. Mais à un moment, quand on est épuisé et qu'on ne sait pas quoi faire, ça peut être du côté de la personne âgée. Il y a un lien affectif, il y a une relation entre la personne accompagnée et, la personne et les dents, qui fait que ou ça va être la personne accompagnée qui va maltraiter les dents, ou les dents va maltraiter la personne accompagnée, mais insidieusement.
Oui, c'est ça, la fatigue mène à ces dérives.
Tout à fait.
Oui.
Donc, il faut accompagner les familles, les accompagnants, pour qu'elles aient du temps de répit, pour pouvoir continuer à faire qu'elles continuent à accompagner avec amour les personnes qu'elles ont aimées toute leur vie. Voilà.
Et là, une petite intervention, donc, c'est que, bon, moi, je connais bien le problème par ailleurs pour avoir travaillé beaucoup dans l'accompagnement, justement, de personnes en fin de vie. Et c'est vrai qu'il y a souvent un épuisement, il y a une colère qui s'installe, qui finalement, quelquefois, est beaucoup contre soi-même, on n'en a pas conscience. Et je dirais qu'en plus, former, effectivement, alors la notion d'accompagner l'accompagnant, elle est relativement récente, même en France, hein, elle a peut-être même pas 20 ans. On s'est rendu compte quand même que les aidants, ben, il rendait un sacré service aussi aux professionnels, et il prévenait aussi. Et que c'est vrai que, par exemple, tout à l'heure, vous parliez aussi, c'est la semaine dernière, je crois, vous parliez des maladies neurodégénératives et compagnie, avec des troubles psy, etc. Et que pour un accompagnant, mieux comprendre, mieux saisir le sens du trouble du comportement, de la relation agressive, comme l'exemple que vous aviez cité la semaine dernière avec la dame qui, tout à coup, vous avait chassé, etc., etc. Mieux comprendre le sens, mieux le raccrocher à un tableau de maladies, de pathologies, ça aide aussi à recevoir avec moins de violence tout à coup le message agressif de quelqu'un qu'on aime depuis toujours, si c'est sa mère, son père ou quelqu'un de proche, etc. Donc effectivement, on voit bien quand même toute cette notion et combien la prévention, la formation et l'écoute et l'accompagnement de l'accompagnant est vraiment primordial. Donc là, je crois que il n'y a rien à dire, tout est bien expliqué. Huguette.
Merci. Alors, vous disiez la semaine dernière qu'on pourrait construire des parallèles entre le lien avec la personne âgée en France et en Afrique. Toutefois, à moins que ce ne soit un cliché qui n'ait plus raison d'être, on sait bien qu'il n'y a pas de maison de retraite en Afrique, on n'a pas les mêmes structures, qu'au contraire, la personne âgée reste plutôt dans la famille et qu'elle va être prise en charge par la famille elle-même. Comment est-ce que vous pouvez faire ainsi une transposition de la situation?
Alors, la transposition va se faire par rapport à la culture. La personne âgée doit rester dans sa famille. Plus elle est dans sa famille, en Afrique, notre culture on vit en collectif.
Comme disait Marie-Claude, en groupe.
Exactement.
C'est le groupe. Il est
vital.
Voilà, le groupe, il est vital. Donc, il est très rare. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Chez nous, si votre maman, votre papa, souvent c'est les parents, si l'un d'eux est hospitalisé, et puis vous avez du travail, et puis vous n'avez pas le temps de passer. Si vous ne passez pas, vous ne survivrez pas au ragot qui va dire que vous négligez votre père ou votre mère.
Tout le monde va le savoir.
Tout le monde sait ce que tout le monde fait. Voilà. Tout le monde y va. Tout le monde voit toutes les personnes qui sont passées. Tout le monde. Donc, on ne peut pas vivre de façon solitaire. Donc, il faut que la personne âgée continue à rester dans la famille, parce que c'est son cadre de vie, son équilibre, et même pour les enfants. Mais dans la culture traditionnelle, il y avait un aidant. Dans toutes les familles, il y avait celui qui s'occupait des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées. Dans la capitale, cette personne a disparu, cet aidant. Maintenant, tout le monde doit travailler à l'extérieur, qui fait que la personne âgée se retrouve isolée toute la journée et perd en autonomie.
À l'occidental, finalement.
À l'occidental.
Chacun a son activité.
Voilà. Chacun a son activité. Et vous rentrez le soir. Si vous avez des moyens, vous prenez quelqu'un qui va venir rester à la maison la journée avec la personne, mais cette personne est là pour de la surveillance. Elle va lui faire à manger, elle va s'assurer qu'elle ne tombe pas ou qu'elle est confortablement assise.
Matériellement.
Voilà. Mais c'est tout. Or, la perte d'autonomie chez les personnes âgées, dès qu'on arrête de faire quelque chose, on l'opère. Donc, il faut continuer à le faire pour que la personne reste... C'est comme manger, dès que quelqu'un n'arrive plus à tenir une cuillère, il faut qu'elle mange avec ses mains. Le mouvement continue. Du moment que ça... Parce que si on lui donne et qu'elle ne continue pas avec ses mains, elle ne pourra plus les utiliser.
C'est encore une faculté qui se perd.
Voilà. Donc, ce que moi, j'aimerais faire, c'est l'accompagnement à domicile avec un centre d'accueil de jour. Donc, un centre de rééducation, là où il y aura vraiment de la rééducation pour les personnes, parce qu'en général, elles en ont besoin, la matinée et l'après-midi. On pourra faire découler toutes les activités possibles pour qu'elle continue à se mouvoir. Avec pour le midi, voire pour l'alimentation. Pareil, en fonction des régimes, revenir à l'alimentation traditionnelle. Parce que maintenant, comme ici, on achète des plats emportés.
Oui, tout à fait.
C'est facile à faire. Hein. On va au magasin, on tire, on met dans nos caddies. C'est pareil au Gabon. Or, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas les maladies que nos parents ont actuellement en vivant à la capitale et que nous avons commencé à voir à des âges, à 40 ans, on est pour la plupart hypertendus déjà. Avec du cholestérol, avec le diabète, avec... Donc je pense qu'on va essayer de revenir à faire un mix entre la mondialisation, on est obligé... De travailler l'économie et le bon qu'il y a dans notre culture, la communauté qui pousse tout le monde et le fait de rester à la maison, mais en ayant des moyens, des techniques pour continuer à se mouvoir.
Donc, on oublie la maison de retraite?
Oui. Ça, non.
Ça ne va pas fonctionner.
Non.
On privilégie la journée à l'extérieur et le retour le soir dans la famille.
Oui.
C'est ça.
Parce qu'au Gabon, ces journées continuent. On part le matin à 7 heures. On rentre à 16-17 heures. Donc, ils peuvent laisser la personne en partant le matin, comme on fait avec les enfants. On dépose tout le monde et on fait le ramassage au retour. Tout le monde aura un minibus.
C'est ça. Et ça, vous le voyez plutôt dans les grandes villes?
Dans les grandes villes.
À Libreville. Et peut-être d'autres villes. Enfin, c'est la ville...
Alors, Libreville, la capitale politique et la capitale économique. Là où il y a les 60% de la population gabonaise.
Ah oui, de la population, oui.
Voilà. Dans les villages, si ça se met bien en place, dans les villages, la prise en charge sera différente. Je pense que ça va être l'accompagnement à la fin de vie. Parce que dans les villages, les personnes continuent à aller à la plantation. Elles font énormément de kilomètres, donc elles font de l'activité physique.
Elles s'entretiennent là, oui.
Ce que les personnes en ville ne font plus.
Tout à fait.
Elles préparent, elles sont obligées de préparer, de continuer à se mouvoir. Et donc, en général, on a moins de pertes d'autonomie chez les personnes qui vivent dans les villages que... celles qui vivent en ville.
Marie-Claude, vous en pensez quoi de
je trouve ça très intéressant. Alors, je suis admirative parce que je sais que c'est le parcours du combattant et pas au bout de... D'autant que pour revenir un petit peu ici aussi, je dirais que les accueils de jour, par exemple, ils existent maintenant aussi pareil depuis quelques années. Il y en a notamment, moi je pense à un qui est pour Alzheimer, par exemple, pour Alzheimer, ciel bleu, voilà. Ça existe de plus en plus. Ce que je sais aussi, ce que je crois savoir, parce que je m'y intéresse beaucoup, particulièrement en ce moment, c'est que chez nous, les personnes âgées, il n'y en a pas autant que ça en pourcentage qui vont dans les EHPAD.
Oui.
Sauf que la grande différence par rapport à ce que dit Huguette, c'est que elles sont chez elles.
Oui,
c'est-à-dire qu'on les maintient, voilà, toutes seules, puisque bon, là, vous le savez, puisque vous avez travaillé dans ce secteur, et donc la grande chance que vous avez vous en Afrique, vous les Africains encore, c'est qu'il reste quand même, il y a encore un petit peu cette permanence un peu de la culture qui fait que quand même le groupe est privilégié, puisque ce que vous expliquiez, c'est que quand même si la personne est à l'hôpital, si vous y allez pas, que vous pouvez pas y aller, tout le monde va vous stigmatiser, alors que ici tout le monde s'en fout de tout le monde et personne va voir si le parent du voisin, alors pas tout le monde, heureusement il y a une solidarité aussi qui peut exister, mais quand même voilà. Et donc je pense qu'effectivement par rapport à, on retrouve un peu les constantes, mondialisation oblige, hein, je crois, économie oblige, etc. Et en même temps on voit bien encore qu'il y a une persistance, qu'il est encore temps peut-être de remuer, d'agiter, de rafraîchir, de remettre, d'oxygéner pour justement ne pas en arriver là où nous en sommes arrivés, nous, maintenant. Quoi.
Oui, un fonctionnement voilà. Qui est...
Donc, moi, je trouve que c'est un super projet. D'autant plus sur un pays relativement petit pour l'instant, qui peut, peut-être concernera pas autant de personnes âgées. Parce que je vois la conférence que nous avions eue, il y a quand même, déjà, dans d'autres pays africains, c'est pas... Il y en a beaucoup plus. Et je trouve qu'effectivement, c'est très clairvoyant. Et là encore, on voit bien voilà, la réflexion, à la fois au départ culturel, voilà, et puis en même temps, avec les techniques, tout ce qui est proposé, qui fait qu'à un moment, on peut avoir une clairvoyance en se donnant, en ayant des informations qui viennent un petit peu de partout. Et alors, des fois, je me dis, la mondialisation, ça peut aussi aider à avoir des belles initiatives comme celles que vous nous présentez, puisque là, vous êtes quand même à cheval entre deux cultures, là. Et ça vous a permis de nous présenter ce projet que je trouve formidable, quoi. Merci. Voilà, il faudra essayer de trouver des moyens peut-être pour vous aider ou vous donner des contacts avec d'autres personnes, quoi.
Est-ce que des gestionnaires privés, selon vous, pourraient être intéressés par des investissements tels que vous les décrivez, enfin, dans votre projet?
Je pense que oui, parce que il y a de la demande. Mais il n'y a pas d'offre. Alors, quand cet été, je suis allée au Gabon, donc j'ai rencontré la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales en charge de la personne, des personnes vulnérables. Elle était tout à fait d'accord avec moi et ils veulent que si je mets en place le projet, ils veulent être partenaires.
Ah, l'État donc.
L'État veut être partenaire.
Ouais.
Et investisseur, j'espère.
Et c'est ça.
J'ose espérer.
C'est la partie.
Partenaire, oui, mais il faut voir comment. On sait que le partenariat, ça fonctionne aussi quand il y a plusieurs partenaires.
Tout à fait.
Alors, il y a l'Église évangélique du Gabon.
Oui, j'allais dire aussi toutes les congrégations religieuses, pourquoi pas, oui, bien sûr.
L'Église évangélique du Gabon qui soutient le projet.
Oui.
Donc, ils l'ont pris et ils demandent un financement, si cela est possible, à la CEVA.
Oui.
Il y a l'association Gepeto, ici, Gepeto International.
Oui. C'est Jean-Michel Panticot qu'on va sûrement recevoir bientôt.
Bien.
Ouais. Qui veut soutenir aussi le projet, parce que dans ce projet, j'ai certainement omis de dire qu'à la base, on va commencer par la formation. Parce que la prise en charge adaptée, on peut pas prendre en charge une personne âgée sans adapter les intervenants, sans que cette prise en charge soit adaptée. Donc l'association Gepeto veut aider, veut qu'on soit partenaire pour nous aider à mettre en place la formation. Il y a Initiative, le centre dans lequel j'ai fait déjà plusieurs formations.
D'accord.
Et j'espère beaucoup plus.
Un petit clin d'œil, là.
Un petit clin d'œil.
D'accord.
Qui est vraiment... Et qui a énormément de formations dans le social et le médico-social. Et au Gabon, il n'existe aucune structure qui forme dans le social ou dans le médico-social. Donc, ça va être la première... Et j'espère la première d'une très grande, comment je vais dire ça ?
Développement
avec toutes les possibilités de tous les métiers du social et du médico-social, parce qu'on va rentrer dedans. On va aller à domicile, mais on va avoir besoin des gens qui orientent. Les médecins vont faire leur travail, les infirmières à l'hôpital vont s'occuper des malades, mais quand elles viennent à la maison, on a besoin des assistantes sociales pour savoir où on peut aller pour accompagner une personne qui peut. Parce qu'au Gabon, on peut trouver des personnes isolées aussi. Hein. Mmh. Des personnes qui n'ont pas fait d'enfants, qui se sont écartées de la famille.
Les enfants sont partis un peu loin.
Les enfants sont partis un peu loin, qui se retrouvent seuls. Comment on fait ? Il n'y a personne là. Donc, ouais. Il va falloir qu'il y ait tout un grand nombre des métiers du social. Parce que quand on voit les personnes âgées, il y a le pan des personnes handicapées. Il n'y a aucun pays du monde sans personnes handicapées. Donc, on a encore tout ce pan qui est aussi à côté, en marge, où il n'y a rien du tout. Et le plus difficile pour moi, c'est les femmes avec des enfants polyhandicapés. Parce que pour les écoles, maintenant, il y a quelques écoles pour les enfants porteurs de handicap qui peuvent suivre une formation. Donc, ils vont les laisser à l'école, de la crèche à, je crois, en CM2. Il y a des structures.
Mais après ?
Mais un enfant polyhandicapé qui ne peut pas aller dans une école où la maman se sacrifie, elle va le garder jusqu'à ce qu'elle puisse le laisser tout seul parce que les autres doivent aller à l'école. Ou elle va le laisser enfermé dans la maison parce qu'il faut vivre, il faut nourrir les autres. Donc, c'est vraiment, je pense que si ces métiers s'ouvrent, les métiers du social s'ouvrent, ça aidera. On pourra, créer des crèches adaptées pour les enfants polyhandicapés. Les mamans viennent les laisser en toute sécurité, en sachant qu'elles peuvent aller se battre dans la mondialisation qui nous entoure, tranquillement, en sachant que l'enfant est pris en charge.
Connaissez-vous des pays du continent africain qui auraient une démarche, qui ont eu ou qui aimeraient avoir une démarche telle que la vôtre ? Ou est-ce que ça ne vous intéresse pas et que voilà, vous allez faire ce que vous avez à faire au Gabon ?
Non, je sais qu'au Burkina Faso, ils ont ouvert un centre d'accueil.
Il y a des recherches qui sont faites actuellement, très complètement.
Pour les personnes âgées. Et notamment avec l'association Gepetto International.
C'est un accueil de jour.
Ouais. Un accueil de jour.
Et puis on avait vu là où on s'est connus, on avait vu aussi au Congo, le monsieur qui n'avait pas
Congo,
pu venir.
Oui.
C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors eux, vraiment, les Congolais, ce qui est dommage, c'est que ce n'était pas beaucoup partagé. Puis il n'avait pas pu venir, il n'avait pas eu son visa pour venir. Et c'est assez extraordinaire. J'ai été impressionnée de ce qu'ils font là-bas.
Oui.
Mais tout ça, pour l'instant, c'est vrai que ça reste un peu
c'est
un peu marginal et un peu isolé quoi.
C'est isolé.
Mais ça commence quoi, ce sont des ébauches,
Et au Sénégal aussi.
Au Sénégal, c'est assez au Sénégal, j'ai vu qu'ils ont des pas des aides à domicile, ils ont des infirmiers des soins à domicile. Ce que dans la plupart des pays d'Afrique, pour le moment, on n'a pas. Or, tout le monde ne peut pas être hospitalisé.
Tout à fait. Oui, ça, c'est assez médicalisé le Sénégal, surtout avec Dakar, qui a quand même un gros hôpital et tout ça, oui. C'est relativement, mais en même temps, ça ne peut pas remplacer après tout ce qui est de l'ordre du social, de l'éducation adaptée, de la formation, etc. Parce qu'après, il y a des différences, quoi. Il n'y a pas que le purement médical. C'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Et ils ont l'école, l'initiative a ouvert une école là-bas, qui forme au métier du social.
Alors, ce que j'entends dans votre projet-là, et qui dépasse évidemment ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que vous partez de la personne âgée, mais vous ouvrez aussi à des personnes beaucoup plus jeunes par le biais du handicap.
Oui, tout à fait. Parce
là,
que
c'est vraiment une population très très étendue.
En fait, on ne peut pas travailler dans le social et se mettre qu'à un endroit parce que de l'autre côté, il y a rien du tout. On ne peut pas accompagner uniquement les personnes âgées et laisser les personnes handicapées en marge. Il faut qu'on trouve, pour le moment, il n'y a rien d'adapté, ni pour les uns, ni pour les autres. Il faut qu'on commence par trouver quelque chose qui peut soutenir le maximum de personnes fragiles ou en situation de fragilité ou situation de handicap.
Et c'est vrai que ce qui est important, je pense, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce que vous essayez de faire, c'est déjà de sensibiliser les gens, c'est-à-dire qu'à un moment, même si ce n'est pas tout à fait la même chose de s'occuper d'une personne âgée que d'une personne handicapée, déjà prendre conscience que ce sont des personnes qui a du savoir-faire à acquérir, mais qui a aussi du faire avec, et d'accompagner, ce que vous disiez au début, la semaine dernière, d'accompagner aussi ces personnes-là. Après, c'est vrai qu'on se perfectionne, on s'y dit mieux, mais déjà, d'avoir cette notion-là, il y a quand même déjà, ce sont des personnes aussi, après, voilà, on affine, on s'interroge, et de toute façon, plus on va affiner, plus on va expérimenter, plus on aura envie de se former, n'est-ce pas, Huguette? Et d'en faire encore,
et de faire des spécialités.
Voilà, tout à
fait.
Mais
déjà, il faut une base pour pouvoir accompagner. Absolument. Et après, dès que c'est posé, on verra pour les spécialités.
Mmh. Alors là, bon, on est aujourd'hui le mardi 30 novembre. Qu'est-ce que vous commencez par faire, là, demain? Vous nous avez expliqué tout votre parcours, là, pour ce projet, il a un titre, ce projet?
Il s'appelle Abba. Je l'ai appelé Abba.
Abba, d'accord.
Abba, déjà en hébreu, ça veut dire père.
Ouais.
Et comme je vais m'occuper de mes pères.
Ouais.
Et enfant, c'est Abba, c'est une case sacrée ou un corps de garde. C'est un mot en langue fond du Gabon qui signifie case sacrée. Et c'est une case. Dans tous les villages bantous, c'est le premier lieu d'accueil quand on rentre, quand on veut pénétrer dans un village bantou. On s'y arrête pour l'orientation, pour la concertation. Et c'est de là qu'on va orienter la personne qui vient au village.
Une belle symbolique.
Très beau. Très beau.
Donc, voilà, nous sommes bientôt au mois de décembre. Qu'est-ce que vous devez mettre en place maintenant? Là où vous en êtes de votre projet, c'est quoi? C'est le financement? Ce sont des partenariats d'État? Ce sont des lieux à trouver? Qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans votre rétro-planning, on va dire?
Alors, il va y avoir les financements, le lieu. Et là, on est en train de voir pour l'ingénierie de la formation. La formation prioritairement. Parce que on est obligé d'adapter à la population, à la culture, la formation qu'on va faire. Là, d'après ce que j'ai vu, ça va être un mix entre accompagnants socio-éducatifs, aide-soignants et moniteurs éducateurs.
Trois professions
qu'on va essayer. On va prendre parce que nous, n'ayant pas de soins à domicile, quand une personne formée va aller à un domicile, si la personne est grabataire, elle doit faire l'échange. Si la personne se souille, humainement, on ne peut pas la laisser. Donc, il faut qu'elle soit capable de faire l'échange. Ce que, par exemple, ici, on ne fait pas. En fait, c'est assez. On le fait parce qu'on
c'est
est sur le terrain.
C'est compartimenté. Oui, c'est très compartimenté.
Mais c'est hiérarchisé. Voilà. C'est ça. On va dire
ouais.
C'est hiérarchisé.
Voilà, hiérarchisé même, plus exactement. Oui. Ouais.
Donc là-bas, on n'aura pas de soins. Ça veut dire que si la personne est souillée ou qu'on doit lui faire une toilette au lit, il faut avoir les techniques de la toilette au lit. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt les aides-soignantes. Mm-hmm. Il faut l'accompagnement social. Ça, c'est l'accompagnement socio-éducatif. Et il va falloir faire le maintien de l'autonomie, l'apprentissage de l'autonomie, apprentissage ou maintien, développement. Ça, c'est plutôt moniteur éducateur. Donc, en fait, on est en train de voir comment on peut faire quelque chose de pas trop lourd, de correct, mais qui soit capable de répondre, nous, à nos problématiques.
Ouais. Un tout-en-un, presque.
Un tout-en-un.
Oui, mais moins hyper spécialisé, quoi. Parce que c'est vrai, quand on parlait tout à l'heure de hiérarchie, effectivement, on voit bien, alors que l'infirmière, ça dépend qui, parce que, ce que dit Huguette, c'est vrai aussi qu'il y en a, elles ne vont pas hésiter, selon la situation. Après, il y a chacun sa tâche, et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de polyvalent par rapport à ces trois diplômes-là que je connais bien ici, effectivement, ça, déjà, ça correspondra à beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins dans tous ces pays-là, quoi, dans tous les pays comme le Gabon.
Alors, vous avez comme Marie-Claude, on prend rendez-vous avec Huguette dans un an.
Ah oui, ah oui.
Dans
ou quand on aura vieilli.
Pour qu'elle nous dise où elle en est. De son passé. Peut-être sera-t-elle déjà à Libreville, peut-être sera-t-elle ici à Montpellier pour voilà pour trouver peut-être des personnes, des formateurs, je ne sais pas.
Ouais, vous-même vous formez. Il faut les prendre là-bas aussi.
Il faut les prendre là-bas, donc voilà, former. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, vous passez par FM+ et vous nous racontez la suite.
Avec plaisir.
D'accord.
Donc on prend rendez-vous, hein.
On va prendre rendez-vous dans un an.
D'accord.
Et puis je vous laisse annoncer, Huguette, le morceau musical que vous avez choisi et confié à William qui va nous le passer.
Alors le chanteur s'appelle Lé. La chanson, c'est Ewamba, et c'est une chanson que ma sœur aime beaucoup.
Alors, voilà, bonjour,
donc
sœur
pour la sœur de Guette, et peut-être un peu pour nos auditeurs, et puis aussi pour nous.
Oui,
on va tous en profiter, merci.
Voilà. Merci William, et puis merci à vous, merci Huguette. Et surtout, n'oubliez pas le podcast, n'est-ce pas ?
RadioFMplus.org.
Au revoir.
Watanga wenja na ngenja Nikabia bakino mye nirenkabi hidyoria Najeza ugo nandewe Yono mbela mia okio Amune embe mye inyowe Givira mieyo Amongi walo wa impara Yenani nono Borare meno wekelia Yowe 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 Yadengi ndegorema Mamonara na singini aweke Kurusu nyakumbio aweke Wano nulata no wazo Aranga wanyawe Yajyo ni runda yodu